que vous êtes venus chacun avec votre Bible ou votre téléphone. Autrement, vous pouvez écouter et après reprendre l'étude parce qu'il est enregistré et le réécouter à nouveau à la maison et reprendre les textes. Mais on va essayer de travailler ensemble et d'examiner ensemble, de méditer ensemble sur ce sujet. Examiner sa vie. Le texte de base qu'on a pris, c'est Lamentations chapitre 3, verset 40. Lamentations chapitre 3, verset 40, qui nous invite non pas comme David l'a fait, où il dit « Sors de moi, ô Dieu », mais c'est une action personnelle. En effet, le texte dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel ». Certes, il est important que Dieu voit où on va, parce que c'est le seul qui puisse nous ramener. Néanmoins, nous avons une responsabilité personnelle aussi de prendre le temps de sonder nos cœurs, de sonder nos vies, de faire un examen, de réfléchir. En lisant ce texte, je me suis dit, Seigneur, c'est un peu une forme, sans lettre, d'introspection. Est-ce que je prends le temps d'examiner si la manière où je marche avec toi, elle est cohérente? Si ma manière de vivre ma vie chrétienne dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je me laisse attiré par la pensée du monde, parce qu'aujourd'hui on connaît très bien la pensée du monde, le monde et la plupart des hommes se dirigent d'une manière qui est mondaine, charnelle, et on est parfois étonné, on se dit mais pourquoi les hommes pensent-ils ainsi? Pourquoi ils parlent-ils ainsi? On sent un décalage, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on est en décalage, ou est-ce qu'en réalité, je dirais, l'écart se creuse de plus en plus. Alors si l'écart se creuse parce que on reste attaché aux valeurs de la parole de Dieu, et certes le monde n'a pas les mêmes valeurs, alors forcément on doit se préparer à que cet écart soit de plus en plus grand. Et il faut qu'on arrive aussi à l'assumer, n'est-ce pas? Sans crainte, sans peur, sans se sentir gêné, parce que je crois qu'il est important d'être toujours attaché aux valeurs de la parole de Dieu. Et pour moi, les valeurs de la parole de Dieu ne créent aucune gêne dans mon cœur. Par contre, il faut que ma foi soit bien enracinée dans la sainte doctrine pour que si quelqu'un me demande des raisons, je puisse m'en expliquer. On est d'accord? Mais la pensée du monde et la vision du monde, en tous les cas du monde qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit que l'homme est le personnage central, que l'homme, en effet, est, selon l'humanité, foncièrement bon, il est maître de son sort, il fixe lui-même les limites de ses œuvres et de sa connaissance, aucune norme morale ne l'oblige à agir en dehors de ce qu'il a décidé de lui-même. Ça, c'est la pensée du monde. À l'inverse, la vision biblique, chrétienne, croit que Dieu est tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu est vivant, omniscient, possède toute connaissance, et il a établi des normes morales absolues auxquelles l'homme est censé se conformer. C'est un Dieu rempli d'amour et personnel, n'est-ce pas? Et il est question pour nous de pas faire l'erreur, parfois, d'essayer d'aménager, excusez-moi, le chou et la chèvre. Alors, en faisant la préparation de cette étude, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut arriver, en effet, et comment les choses, elles avancent? La vision du monde et la vision chrétienne. Est-ce que, parfois, arrive-t-il, ou peut-il arriver, ou y a-t-il le risque que nous faisions encore un mélange entre les deux visions? Est-ce qu'on court ce type de risque? Et je me suis aperçu en réfléchissant à différentes histoires et moments de partage que j'ai pu avoir avec des personnes que Malheureusement, des fois, on se retrouve avec des personnes qui vivent différentes réalités. Ça nous est peut-être nous-mêmes arrivé dans le sens de dire on a comme si on était plusieurs personnages dans le même personnage. Une manière d'être et une manière d'agir quand on est à l'église. Une manière d'être et une manière d'agir quand on est au travail. Une autre manière d'être et une manière d'agir quand on est avec des amis du monde. Et encore autre chose quand on est avec des amis chrétiens. En réalité, tout ça, est-ce que c'est cohérent? Et pourtant, il arrive bien des fois et on se rend compte qu'il y a un souci. On s'est laissé peut-être happer par un type de fonctionnement. Et pourquoi on en arrive là? Moi, la question principale, c'est pourquoi on en arrive là? Et en lisant ce texte de des Lamentations, il dit « Examine-toi ». C'est que je me rends compte que malheureusement, on passe d'une activité à une autre, on passe d'une action à une autre, on a des programmes remplis. Je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, moi, les personnes qui disent qu'ils s'ennuient, je comprends pas. J'ai pas le temps de tout faire. Alors, je sais pas s'il y en a parmi nous qui s'ennuient. Non? On est tellement pris dans des activités et cette personne dit « Mais moi, je m'ennuie pas. Pourquoi ? Parce que moi, mon bonheur, c'est déjà de pouvoir prendre la Bible, de pouvoir prier. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. S'il y en a qui s'ennuient, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. » Alors, et c'est une réalité. Mais en même temps, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber non plus dans une forme d'activisme qui nous fait passer à côté des vrais besoins. Et le vrai besoin, c'est pour moi aussi de comprendre la vision de Dieu, parce que malgré tout, comme la Bible elle nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes projets ne sont pas vos projets, est-ce que j'arrive véritablement à être dans les projets que Dieu a préparés pour moi? Et si c'est le cas, comment voir si je suis bien dedans, est-ce que je suis bien dans mes chaussures? Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Ou est-ce que je suis en train de marcher tantôt à droite, tantôt à gauche? Quand j'ai un problème, oh Seigneur, aide-moi. Et quand tout va bien, je pars dans ma direction. Et dès que je me prends à nouveau un coup de bâton, oh Seigneur, aide-moi. Et vous savez, c'est une manière de marcher en zigzag. Et ça, c'est pas ce que Dieu a prévu. Alors, il est question pour nous de bien analyser les choses. Je réfléchissais à l'histoire d'un couple que j'ai rencontré il y a des années en arrière. Alors, tout d'abord, c'était un jeune qui venait d'arriver et sur lequel je pressentais vraiment un appel au ministère. On le sentait très fort, le parcours qu'il avait fait ce garçon et la manière où Dieu l'avait touché dans sa vie. À plusieurs pasteurs, on s'est retrouvés en contact avec ce jeune et on avait tous cette même conviction. Ce jeune était appelé au ministère. Un jour, il commence à se rapprocher d'une jeune fille chrétienne, mais dont les valeurs n'étaient pas les mêmes. Les objectifs n'étaient pas les mêmes. Les désirs n'étaient pas les mêmes. Et en entretien, j'ai dit à ce jeune, écoute, tu m'as déjà parlé de ton désir de servir le Seigneur. Pose-toi la question. Si c'est la bonne personne pour toi, pas tomber dans une situation qui va te coûter ce que Dieu est en train de te donner. Donc, il s'est engagé à prier pour cela. Mais véritablement, au lieu de prendre le temps de prier, vous savez, on est tous un peu, avec cette manière de faire, on pose la question à Dieu et on prend la réponse qui nous convient. Et parfois, la réponse, elle arrive plus rapide qu'on ait terminé la prière. En effet, on dit à Dieu ce que nous, on voudrait que Dieu nous dise. Et quand on dit Amen, c'est pour dire, Seigneur, tu as compris ce que je veux, donc tu vas aller dans mon sens. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et malgré les différents avertissements, ce garçon a été plus loin avec une jeune femme, ils se sont mariés. Moi, je lui ai dit, je crains sincèrement pour ta décision, non. Parce que je pense que vous avez des objectifs qui sont différents. Et ça n'a pas tardé. 2 ans plus tard, le mariage était difficile à vivre, ça battait de l'aile. Elle espérait que lui, malgré qu'ils aient discuter au départ, les objectifs, les désirs de la vie, mais elle, elle souhaitait avoir un mari qui allait faire une certaine carrière, qui pouvait lui donner un certain avenir, qui allait lui offrir les mêmes choses que sa sœur, elle avait. Sa sœur était mariée avec un ingénieur, donc elle, elle voulait aussi un ingénieur. Sa sœur, elle habitait près de la Suisse, elle aussi, elle voulait habiter près de la Suisse. Mais le garçon en question, lui, voulait servir le Seigneur. Les objectifs n'étaient pas les mêmes. Les désirs n'étaient pas les mêmes. Et à un certain moment, cette différence d'objectifs, de pensée, de vision, ont amené le couple à se briser. Triste, mais réel. Et encore aujourd'hui, je me dis que parfois, on prend des décisions sans véritablement déjà se poser la question, est-ce que Dieu est d'accord ? Est-ce que c'est véritablement ce que Dieu a prévu pour moi ? Et est-ce que je suis prêt aussi à aller dans la direction que Dieu me donne ? Ou est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent être modifiées ? Quand on regarde dans la manière où Jésus a enseigné ses disciples, alors que les religieux de ce temps-là se basaient sur la vie extérieure, Jésus ramenait toujours ses disciples à sonder leur cœur, l'intérieur. Si on regarde bien, même quand on vient reprocher à Jésus que ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains, vous vous rappelez de ce texte ? Jésus met en évidence le fait que l'important, en réalité, ce n'était pas de laver l'extérieur, c'était l'intérieur. Et c'est en effet à l'intérieur que Dieu va changer des choses qui vont aussi se manifester, certes, à l'extérieur. Mais au départ, c'est à l'intérieur. Alors, au moment où on ne fait pas cette relation entre ce que Dieu nous demande, on ne prend pas le temps d'examiner où on en est avec notre cœur, on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, peut-être coincé dans une histoire où on est partagé entre deux visions. La vision de Dieu et la vision du monde qui nous entoure, n'est-ce pas ? Et parfois, on peut se trouver un peu comme un chrétien en captivité. J'ai considéré ça de la manière où on se sent enfermé dans quelque chose. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, le verset 8, Colossiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dira « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Est-ce que on arrive à considérer que Paul, de manière, je dirais, avant-gardiste, il est en train de dire pas seulement aux chrétiens de l'Église des Colossiens, mais aussi à nous aujourd'hui, veillez à que personne ne vous prenne au piège, le piège des raisonnements. Le piège qui nous amène en réalité à nous éloigner de la vision de Dieu, donc dans une, dirais, une vision très matérialiste qui aujourd'hui est en train d'acquérir, excusez-moi à la cause, de plus en plus d'hommes et de femmes, même parmi les chrétiens. Alors, des besoins, on en a tous. On a tous besoin de manger, on a tous besoin de s'habiller, on a tous besoin de payer nos factures. Mais parfois, on rentre dans cette course sans arrêt, à avoir de plus en plus, et parfois même en négligeant ce qui est l'essentiel, notre relation avec Dieu. Notre temps que nous avons quand même dit, je te donne tout, Seigneur. Non ? Vous vous rappelez le jour où vous êtes converti au Seigneur, qu'est-ce que vous lui avez dit ? « Seigneur, je te donne mon 35 heures. » Un frère disait tout à l'heure, « Je suis à la retraite. » Ça veut dire qu'avant, tu étais limité dans le temps que tu pouvais donner au Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite, mon frère. Amen. Je me réjouis pour toi. Mais la réalité, elle est là. Alors certes, les obligations, les responsabilités qui sont les nôtres, on doit les porter de l'avant. Mais nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Si on se laisse grignoter cette relation avec Dieu, si on se laisse prendre au piège par les mentalités qui circulent, on risque de perdre de vue l'essentiel. Vous avez déjà vu la manière où on fait des fouilles archéologiques. Oui ? Dernièrement, ils présentaient des images de Pompéi. Moi, j'ai été visiter Pompéi, j'avais 12 ans. Ils sont en train toujours de balayer de la poussière là-bas. Hein, et ça continue. Et ils découvrent des belles choses, magnifiques. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la manière où les recherches se font. Et je me suis dit que très souvent, malheureusement, en tant que chrétien, on est peut-être devenu superficiel. On vit notre vie chrétienne avec superficialité. On arrive à l'église, on rencontre le Seigneur, on arrive dans une église, le Seigneur nous y conduit, on sent dans notre cœur qu'il faut s'engager avec le Seigneur, on fait notre formation baptême, là on trouve tout le temps nécessaire, on s'engage par les eaux du baptême, et après quoi, on a le sentiment qu'on passe dans une deuxième étape. Je sais tout. J'ai plus besoin d'apprendre. L'important, c'est d'être présent au moins à une réunion par semaine, au moins. Mais si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Alors certes, ce n'est pas la réunion qui sauve. Mais si à la place d'être à la réunion, excusez-moi, je suis à la pêche, je crois qu'il y a un problème. C'est une question de priorité. Mais néanmoins, ce qui m'a interpellé, c'est que ces personnes qui sont là, qui font des fouilles, ils font tout d'abord un quadrillage. Et chacun prend le temps de travailler sur une parcelle. Et je me dis qu'en tant que chrétien, il y a certainement des choses dans notre vie qui ont besoin qu'on y travaille d'une manière particulière. Il y a des secteurs de notre vie qui ont besoin qu'on prenne le temps. Et après, ils commencent à enlever ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui pourrait cacher les trésors qui sont là. Et on passe très souvent à côté des trésors que Dieu a préparés pour nous à cause de notre superficialité. On y a peut-être même marché dessus sans bien tenir compte que le Seigneur nous a mis sur un terrain riche de bénédictions. Et on est là et on pleure, Seigneur bénis-moi. Le Seigneur nous dit, mais creuse, vas-y. Tu es sur un terrain où les bénédictions, elles sont déjà pour toi, mais tu dois les prendre. Mais Seigneur, envoie-les. C'est plus facile que ça tombe déjà cuit dans l'assiette. Et Dieu nous dit, mais mets-toi à genoux, creuse. Et du moment qu'il commence à enlever cette poussière, certes, il retrouve parfois des petites brides. Et une fois qu'ils ont recueilli toutes les pièces, qu'ils sont allés jusqu'au bout, mais ils commencent à mettre une pièce à côté de l'autre. Et une fois que ce travail minutieux est fait, mais il y a quelque chose d'incroyable, d'une valeur inestimable qui ressort. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que après, il est question de comprendre quand, il est question de comprendre comment, il est question de saisir aussi qu'est-ce qui a amené à faire cela. Alors je me dis, autant que chrétien, est-ce que je prends le temps à examiner tout ce qui pourrait enrichir ma vie spirituelle? Tout ce que l'ennemi a essayé de cacher dans la poussière, caché sous la terre, alors que Dieu me dit, vas-y, mets-toi à genoux, prends le temps. La Bible n'est pas un livre poussiéreux, comme j'ai pu parfois entendre, malheureusement. Mais je crois que dans la parole de Dieu, il y a des choses précieuses qui demande de prendre le temps d'examiner, de réfléchir, de méditer et de dire, Seigneur, j'y reviens parce que peut-être je suis passé à côté de quelque chose. Et j'ai besoin d'avoir un tableau clair dans ma vie, Seigneur. Parler de la grâce. C'est simple de parler de la grâce. Mais est-ce qu'on a tout compris de ce que ça veut dire, la grâce? Parler du pardon. Hein? Parfois, certains considèrent le pardon comme une petite couverture. Si tu te couvres le haut, t'es découvert en bas. Si tu te couvres les pieds, t'as froid à la tête. Et je crois que le pardon, ben, il nous complète complètement, il nous couvre complètement. Le sang de Christ vient et qu'est-ce que ça produit le pardon et comment je dois vivre le pardon? Mais si je me limite juste à dire, voilà, t'as été pardonné, ok, très bien. Et après, je fais quoi? Vous réfléchissez bien à cette histoire de cette femme qui est amenée à Jésus, après avoir été trouvée en train de coucher avec un homme. Vous vous rappelez? Et Jésus, il est là, il est en train d'écrire sur la terre. Tiens. Et on amène cette femme trouvée en flag. Étonnamment, elle est seule. Le bonhomme, lui, il a été exonéré de ses responsabilités. Il n'était pas fautif. C'est arrivé. Hein? Bon. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais ce qui est interpellant, c'est certes la manière où Jésus va agir parce que le monde était prêt à la juger. Et Jésus sortira une phrase qui, une phrase culte, hein, que celui qui n'a pas de péché jette le premier la pierre, non? Et dit le texte que les uns après les autres sont tous repartis chez eux. Finalement, cette femme, elle reste là, debout. Et Jésus a repris à écrire par terre, nulle part ça nous a écrit qu'est-ce que Jésus écrivait par terre. Peut-être Jésus était en train de faire des fouilles. Hein. Peu importe, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est ce qui va se produire après. Parce que Jésus dira, où sont tes accusateurs? Et cette femme dira au Seigneur, ben ils sont partis, il n'y en a plus. Jésus lui dit, moi je ne t'accuse pas non plus, mais va et ne pêche plus. Mais il lui dit, rentre chez toi. Et ce qui m'a interpellé, c'est le fait que cette femme, malgré tout, elle va devoir rentrer chez elle et assumer ce qu'elle a fait. Assumer qu'à un moment de sa vie, elle a commis un péché. Le Seigneur lui a fait grâce, mais néanmoins, elle va devoir reconstruire, après cette histoire, et faire preuve d'avoir saisi la grâce que Jésus lui a faite, parce que là, c'était la lapidation. Donc, elle allait mourir. Jésus lui a sauvé la vie, lui a donné une deuxième occasion. Mais néanmoins, elle va devoir assumer ses responsabilités. Et parfois, la grâce est considérée comme quelque chose qui met les compteurs à zéro et vas-y, tu peux redémarrer. C'est pas grave. Tu peux recommettre ton péché, après tu reviens, on te donne encore une tartine de grâce. Et t'es reparti encore une fois. Et que Dieu nous aide et nous garde. Alors, si on a bien compris, il y a la vision matérialiste, il y a aussi la vision par rapport à la manière de vivre, les aspects de moralité que Dieu nous donne, qui ne sont pas des conseils, mais je dirais c'est des fondements. Ce sont des fondements. Et qui ont toute leur place, parce que quand on voit la manière où certaines choses se produisent aujourd'hui, certaines maladies arrivent, certaines pratiques ont amené certaines maladies. Si on parle du sida, par exemple, c'est lié à quoi? On le sait. Des relations entre des êtres humains et des singes. Mais quand la Bible condamne ce type d'acte, et l'homme n'écoute pas, mais forcément, il y a des conséquences. Il y a des choses qui arrivent parce que malheureusement, on n'a pas écouté. On n'a pas voulu entendre ce que Dieu nous dit. Alors, je disais aussi qu'il y a ce problème, ce dilemme entre deux êtres. L'être visible et l'être réel. L'être visible, c'est celui que les autres voient. N'est-ce pas? Mais l'être réel, c'est celui que Dieu connaît. On peut donner une image à l'école, au travail, à l'église, avec les amis, mais Dieu connaît véritablement le plus profond de notre cœur. Jérémie chapitre 17, verset 9, il nous dira, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourra le connaître? Qui pourra le connaître? Donc ça nous amène, frères et sœurs, à devoir saisir pleinement cette pensée du livre des Lamentations. On dit « Examinez-vous ». Où en est mon cœur? Où j'en suis avec ma recherche personnelle de la relation que je me dois d'avoir avec Dieu? N'est-ce pas? Je méditais sur cette parole de Jésus qui dira à ses disciples « Vous êtes mes amis ». C'est magnifique, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Partage? Quoi encore? Faisons attention à ne pas faire le parallèle entre l'amitié du monde et l'amitié auquel le Seigneur nous invite. Jésus dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Si vous faites ce que je fais. Si vous agissez comme j'agis. N'est-ce pas? Il y a des valeurs. Et quand on voit la relation entre Dieu et Moïse, où Dieu appelle Moïse son ami, moi je me dis, Seigneur, il y a du chemin à faire. Non? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux considérer véritablement que je suis l'ami de Jésus? Est-ce que je fais toujours ce que Jésus me demande de faire? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est devenu un sujet n'importe lequel. Vous allez sur les réseaux sociaux. Hein, t'as combien d'amis? Des milliers de followers. Il est à la page, le frère. Et followers. Et des gens que t'as jamais rencontrés. Qui peut-être ils vont passer à côté de toi un jour où tu as vraiment besoin. Ne te connaissent pas. Parce que leur valeur et leur vision de l'amitié ne se limitent que à que tu fasses ce qu'eux, ils attendent que tu fasses. Point. C'est un mot. Mais la véritable réalité de l'amitié que Christ nous propose, il est notre ami au tel point de mourir pour nous à la croix. Au moment où on vient arrêter Jésus, il dira « laisse-les aller ». Ils n'ont rien à voir, c'est moi. C'est moi que vous êtes venu chercher. Il couvre ses disciples, ses amis. Est-ce que Jésus vous a déjà couvert? Oui. Au moment où il fallait payer votre dette à la croix, Jésus a dit, attends, moi j'y suis allé, pour lui, pour elle. Ça, c'est l'amitié que le Seigneur nous offre. Alors on voit que la manière de la vision de Dieu, la pensée de Dieu, nous amène chacun d'entre nous, hein, et on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Je crois que c'est vraiment un examen personnel de se dire, comment est-ce que je peux changer dans ma vie? Comment est-ce que je peux véritablement grandir, mûrir spirituellement? Est-ce que je prends le temps de sonder mon cœur pour dire, Seigneur, voilà, cette année j'aimerais pouvoir grandir avec toi. Il y a telle partie de ma vie, Seigneur, je manque tellement de connaissances, j'ai tellement besoin, tu me révèles, Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Quand c'est la période où les enfants doivent prendre la décision sur les études à prendre. Vous avez vu déjà, on fait des salons, des études où ils y vont et ils regardent un peu tout ce qui est offert. Ça serait super si, autant que chrétien, non, il y a un salon qui est fait tous les ans, tu vas, on te présente tout ce qui peut être fait, tu dis ça j'aime pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Le Seigneur aime avoir un entretien personnel et personnalisé. Ça ne veut pas dire parce que la personne, ton frère ou ta sœur qui est autour de toi, le Seigneur l'appelle à une chose, que toi tu vas faire la même chose. Par contre, dans le couple, même s'il y a, je dirais, des sensibilités différentes, la vision de Dieu sera unique, parce que Dieu n'envoie jamais un couple de manière séparée. Je dirais qu'il Il crée le couple pour le projet qu'il a, en donnant à chacun ce qu'il faut pour atteindre le but de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide aussi à réfléchir dans la manière où peut-être on s'engage dans la vie avec quelqu'un et se dire, est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce qu'on va aller dans la même direction? Il y a une dizaine de jours, j'ai trouvé une annonce et j'ai sauté sur l'annonce. C'est quelqu'un qui vendait un joug. Oui. J'ai appelé et je suis allé récupérer le joug. C'est un morceau de bois, hein? Et quand vous le prenez, il a du poids. Et quand vous... Et un de ces jours, on va s'en servir, vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'est, et comme la Bible le dit, ne vous mettez pas avec un joug, avec un infidèle. Pourquoi? Parce que vous allez tirer dans deux directions et vous allez vous faire mal. La sagesse de Dieu. Alors, Seigneur nous donne de réfléchir avant d'agir et ne pas nous laisser prendre par la passion du monde, par la vitesse du monde, par la manière d'agir du monde, mais que nous puissions davantage pas seulement examiner nos vies comme nous l'avons lu tout à l'heure, mais aussi marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux de moi? Est-ce que je vais avoir cette patience? Moi, je sais qu'au départ, au démarrage de l'appel du ministère, j'ai dit au Seigneur, tu dois travailler ma patience. Parce que je suis quelqu'un de patient, si ça dure pas longtemps. Et vous savez, quand Dieu nous dit, ah, tu veux apprendre la patience? Je vais t'apprendre à attendre longtemps, même si t'as pas envie d'attendre. Et là, Dieu nous enseigne à dire, attends. Et quand on voit la manière où Dieu a préparé les choses, c'est incroyable. Et là, on reconnaît, Seigneur, merci parce que tu m'as retenu, Seigneur. Peut-être je me serais lancé plus vite et je serais allé droit dans le mur. Et après, quelques temps plus tard, le Seigneur nous met dans une autre circonstance où il va travailler encore un peu plus notre patience. Et je peux vous dire encore aujourd'hui, je ne suis pas à la fin des études. J'analysais à l'histoire que j'ai lue il y a quelque temps d'un jeune étudiant qui rencontre un prof, quelqu'un reconnu, et éminent, sage, et ce jeune homme veut faire une formation, veut apprendre, et on lui dit, si tu veux vraiment apprendre, il faut que tu puisses travailler avec cet homme. Ok, donc il se présente, il va vers cet homme, c'est scientifique, et il lui dit, écoutez, moi je voudrais vraiment apprendre. Et cet homme lui dit, vous êtes sûr que vous voulez apprendre? Oui, oui, bien sûr. Et ce spécialiste, ce scientifique, faisait des recherches sur la nature, les poissons. Et donc il prend dans sa remise, il avait un récipient avec un poisson qui avait été mis dans l'alcool. Et il lui dit, vous allez étudier ce poisson, et je reviens dans une heure, vous me dites ce que vous avez découvert. Et en effet, le prof, il n'est pas venu après une heure précise, hein, parce qu'il avait quand même pas mal de choses à faire. Et ce jeune homme, il a pris le temps, il a regardé le poisson, il n'a pas trouvé trop beau. Et bon, il a tiré deux, trois choses, il les a écrites en disant, bon, quand il vient, je vais lui donner mon petit résultat, et c'est bon. Et au bout d'une heure et demie, le scientifique qui vient, il lui dit, alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur le poisson? Et très rapidement, voilà, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Et le prof, il dit, mais vous avez pas bien regardé. Étudiez le poisson. Si vous voulez apprendre, vous devez étudier le poisson. Et ce jeune homme, il a commencé à nouveau, il a compris que, ben, il aurait pas été plus loin que ce bocal et ce poisson. Il dit, ben, si la formation c'est ça, ça va être long et compliqué. Mais il a commencé à s'y prêter, et à le sortir du bocal, à regarder combien d'écailles il avait le poisson, la dimension, s'il avait des dents ou pas. Il a essayé vraiment de la dimension. Il a commencé à étudier et finalement, au bout de 8 mois, il avait pu rendre une étude claire sur le poisson. Et au bout de 8 mois, cet étudiant était au regret d'être arrivé au bout de son stage de formation. Et en lisant ça, je me disais, Seigneur, combien de fois nous-mêmes et moi-même, je lis un texte, Seigneur, mais Seigneur, toi tu me dis, ben regarde les poissons, vas-y. Eh mais Seigneur, je l'ai lu tellement de fois, Seigneur. Ça vous est arrivé de lire un texte, de le relire et après vous dire, tiens, ça je ne l'avais pas saisi. C'est parce qu'à quelque part, le Seigneur m'a dit, va, regarde à nouveau. Et là, vous découvrez qu'il y a une autre dimension que vous aviez ratée la première fois. Et quand vous allez y revenir à nouveau, ben, il y aura encore quelque chose. Est-ce qu'il y a des secteurs de notre vie où on a été, et est-ce qu'on est prêt à le reconnaître, on a été trop rapide? Si je veux comprendre la vision de Dieu pour ma vie, je ne peux pas juste dire à Dieu, s'il te plaît, mets-moi une diapositive avec le tableau complet. Parce que ça veut dire que je réduis la vision de Dieu à une image. Non? Alors que le Seigneur, en réalité, tout au long de notre vie, nous fait découvrir un petit morceau de sa vision. On aura, je dirais, le tableau complet quand on sera dans le ciel avec lui. Parce que ce que nous allons faire va faire partie encore de ce que les autres ont aussi fait, n'est-ce pas? Mais on est tellement arrivé dans cette période où on veut tout, tout de suite, maintenant. On recherche une information et on se base sur ce que peut-être même Internet peut nous donner. Non? Vous avez Internet à la maison? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus d'Internet à la maison? Il y a 2 jours, avec Nathan, on était en train de regarder un peu la télé et paf! Plus rien. Nathan dit « Non ! Plus de télévision, plus d'Internet, plus de téléphone, je vais faire quoi ? Je vais faire comment ? Et en plus, voilà, je suis en vacances. » Et je lui dis « Tu sais, tu vas laver la voiture. » Hein ? Et je lui dis « Après, tu vas laver celle de ta maman. » Et après, tu vas à la vaisselle de l'église. Alors, le jour d'après, le technicien, il est venu, il a remis en place un terrain. Super, j'ai perdu Nathan. L'après-midi, rebolote. Plus d'Internet, plus de télévision, plus de téléphone. Et encore une fois, non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, t'inquiète pas, je vais te trouver des occupations. Mais il faut reconnaître qu'on est tous comme ça. On cherche parfois la facilité. On cherche les choses qui nous sont déjà données, prémâchées. Et en réalité, on a besoin de découvrir un peu plus loin. Et on a besoin de découvrir ce que le Seigneur veut nous montrer à nous. Ce que Dieu va me montrer à moi n'est pas forcément la même chose que le Seigneur va montrer à chacun de vous. Parce que les besoins, ils sont différents. Je ne peux pas faire un copier-coller. Et j'ai besoin, on a tous besoin, de placer notre cœur et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alors tu me dis de sonder mon cœur, Seigneur. Alors si je commence à sonder mon cœur, j'arrive au point de devoir reconnaître quand même qu'il y a encore des lacunes. Non? Je sors de l'image du chrétien parfait. Je ne peux plus dire, oui, ça c'est bien, mais je n'ai pas trop besoin. Les autres, peut-être, je ne convertis, mais moi... Et non, je me dis, Seigneur, au moins autant et peut-être voire même plus que les autres. Non? Et de dire, Seigneur, merci parce que tu me l'as révélé. Seigneur, amène-moi à vivre autrement les choses. Alors j'aimerais terminer avec une anecdote. Un jour, un pasteur désirait faire connaissance avec quelqu'un qui venait d'arriver dans l'église, un homme de passage. Et donc, comme il a entendu que cet homme, il aime bien le sport, il dit, bah, écoutez, cet après-midi, il y a une action sportive, il y a de la course, si vous voulez, on peut y aller, on peut regarder un peu ensemble, il y a de l'athlétisme. Ah ouais, super. Eh bien, on aura aussi l'occasion un peu de discuter ensemble. Et donc, ils sont au bord du terrain et au moment où ils se préparent, les coureurs, ils sont là. Il y en a qui font un peu le signe de croix, il y en a d'autres. Et cette personne dit au pasteur, mais ça sert à quoi? Et en réalité, ça sert à rien si on n'a pas compris ce que ça veut dire. Je crois que parfois, on fait des choses par habitude, parce qu'on a entendu que, mais il ne change rien à notre vie si on n'a pas compris ce qu'il y a derrière. Je ne peux pas partager la croix avec quelqu'un si je n'ai pas compris quel effet ça doit avoir dans ma vie. Un jour, il y a un petit film qui était sorti sur ça. C'était quelqu'un qui faisait du stop et qui se fait prendre en voiture. Et là, il commence à parler avec deux personnes qui se disent chrétiens. Et par contre, ils le prennent un peu de haut. Et cet homme se met vite en colère. Et il dit, ben, vous êtes chrétien, pourquoi vous agissez comme ça? Et à un moment, cet homme, il sort une arme. Il dit, si vous êtes chrétien, si vous êtes prêt à mourir pour Dieu, ben, on va le voir. Et donc, il leur dit, maintenant, est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Et la dame, après un moment d'hésitation, de pleurs, de larmes, de cris, il dit, non, je suis pas encore prête. Et il fait la même chose avec cet homme. Et malheureusement, lui non plus était prêt. Et cet homme, il termine par dire, comment voulez-vous vous me parler de quelqu'un qu'en réalité, vous connaissez pas vous-même? Comment pouvez-vous me parler, m'apporter quelque chose que vous-même, vous ne vivez pas? Alors, l'arme était factice. Il n'y avait pas de projectile, il n'y avait aucun danger. Mais ça a mis en évidence la lacune profonde. Comment pouvons-nous parler de quelque chose qu'on n'a pas pleinement réalisé? Alors, je pense que le texte que nous avons lu au départ du livre des Lamentations, est-ce que quelqu'un s'en rappelle de ce texte? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Est-ce qu'on a besoin de revenir à l'Éternel? Mais ça veut dire aussi qu'on dit au Seigneur, aide-moi à sonder mon cœur et ma vie, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être un homme de compromis. Je ne veux pas être, excusez-moi la définition, un chrétien du dimanche. Seigneur, je ne veux pas être une façade à l'église et autre chose ailleurs. Aide-moi, Seigneur. Seul, je ne peux pas y arriver. Seigneur, par ta parole, nous sommes amenés, Seigneur, à réfléchir sur notre cœur, sur nos pensées, notre comportement. Et Seigneur, face à cela, face à l'image, à la réalité, à la vérité profonde de ta parole, chacun d'entre nous reconnaît qu'il y a encore du travail et des progrès à faire. Merci, Seigneur, parce que toi seul, tu nous renvoies à la juste image. Le monde peut-être nous dirait, mais vous êtes pas trop mal. Mais ta parole nous dit, tu vois, mon enfant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans le monde, on justifierait par pointer du doigt sur les circonstances, sur l'éducation, sur les temps. Mais toi, tu nous dis, c'est ton cœur. Il y a un problème au plus profond de ton cœur. Tu as besoin de me donner ton cœur. Seigneur, tu nous ramènes à la réalité. Seigneur, non pas vivre une vie chrétienne virtuelle, mais une vie chrétienne réelle. Seigneur, merci pour le partage de ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à sonder chacun de manière personnelle. Seigneur, à examiner aussi les chemins, les directions qu'on a pris. Et Seigneur, aide-nous à revenir sur le bon chemin. Seigneur, aide-nous à revenir à toi. revenir à toi avec nos sentiments, revenir à toi, Seigneur, avec la manière de vivre, revenir aussi, Seigneur, au principe que ta parole nous donne, Seigneur, sans essayer de les discuter, sans essayer de les, Seigneur, de les moderniser, mais de te dire, Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. Seigneur, garde-nous et accompagne-nous encore, Seigneur, dans notre temps de méditation personnelle, pour que nous puissions être enrichis, Seigneur, et que chacun de nous puisse découvrir les trésors du terrain sur lequel tu nous as placés. À toi et à toi seul, Seigneur, revient la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. J'ai été aussi clair que ça. Alors moi, j'essaie de préparer toujours des notes. J'avais 4 pages de notes, mais après mes notes, je les vois plus. J'y vais avec mon cœur, mais je me dis toujours, est-ce que tu as été suffisamment clair?